Jésus, tu as un plan pour nous. Oui, Jésus, tu es allé jusqu'au bout parce que tu as pensé à nous. Tu as pensé à chacun de nous. Aide-nous en retour à aller jusqu'au bout avec toi. Parle-nous encore ce soir, nous t'en prions. Envoie ton esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Vous êtes, je le sais que vous le savez déjà, mais je vous le répète, vous êtes les bienvenus dans ce lieu. Vous êtes dans la maison du Seigneur, la maison où nous prions, la maison où nous étudions la parole de Dieu, et cela, il faudrait que vous en soyez conscients et que vous puissiez vous sentir à votre aise dans ce lieu d'étude de la parole de Dieu. Ce soir, notre sujet a pour titre « À l'image de Dieu ». Notre sujet de ce soir a pour titre « À l'image de Dieu ». Et pour introduire ce sujet, je vous invite à prendre tout de suite vos Bibles. Si jamais quelqu'un n'a pas de Bible et voudrait une Bible pour faire la lecture, vous levez la main, une Bible vous sera prêtée gracieusement pour la soirée. Exode chapitre 20 est le texte que nous allons lire en introduction. Le livre de l'Exode au chapitre 20. Le livre de l'Exode, donc Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Ensuite, le second livre de la Bible, c'est le livre de l'Exode. L'Exode est le livre qui raconte le voyage des enfants d'Israël, le voyage des Israélites, quand ils sont sortis de la captivité d'Égypte et quand ils sont allés au pays promis, le pays de Canaan. Sur leur route, alors qu'ils étaient déjà libres, Dieu va leur rappeler un certain nombre de principes. Nous disons bien que Dieu va leur rappeler un certain nombre de principes et non pas leur donner, parce que ces principes-là, ils existaient depuis la création. Dieu va leur rappeler ces principes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte pendant plusieurs siècles. Ils ont perdu le contact avec la parole de Dieu. Ils ont oublié certaines choses. Ils ont adopté des pratiques égyptiennes. Ils ont des pratiques qui venaient des Égyptiens. Mais maintenant qu'ils ne sont plus chez les Égyptiens, maintenant qu'ils sont libérés de l'Égypte, maintenant qu'ils sont en route pour le pays promis, Dieu leur dit: vous ne devez pas vivre comme les Égyptiens, vous devez vivre comme des enfants de Dieu. Et là, la Bible dit que le Seigneur va leur rappeler les principes de base qui guident la vie des enfants de Dieu. Lisez avec moi. Dans Exode chapitre 20, verset 1er, la Bible dit: alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. J'aime bien l'introduction, parce que déjà dans l'introduction, Dieu précise une chose. Je vais maintenant vous donner des ordonnances. Je vais vous donner maintenant ce qui doit être votre style de vie. Mais avant de vous rappeler ces choses, je vous rappelle que je suis votre libérateur. Le Dieu qui donne les commandements, qui donne les paroles, c'est un Dieu libérateur. Les commandements sont rappelés à un peuple déjà libre. Ce ne sont pas les commandements qui les libèrent, c'est Dieu qui les libère. Mais comme ils sont libres, Dieu dit: je voudrais que vous puissiez rester libres. Donc je vous donne un style de vie. Par ce style de vie, vous allez préserver votre liberté. Et ce soir, nous allons nous intéresser aux deux premiers commandements. Le premier commandement dit quoi? Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement est très bref. Il est très simple, mais il est très puissant. Parce que les Israélites qui sont là, ils reviennent d'Égypte. En Égypte, il y a quantité de dieux. Il y a un Dieu pour chaque chose. Et c'est compliqué. Mais Dieu leur dit: écoutez, moi je suis un Dieu suffisant pour tous vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'avoir le Dieu de la pluie, le Dieu de la fécondité, le Dieu du soleil. Vous n'avez pas besoin d'avoir le Dieu de l'eau. Vous avez un seul Dieu. Et ce seul Dieu, il est capable de faire tout pour vous. Un seul Dieu suffit. Avant, quand on sortait, on avait une montre, un appareil photo. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Un répertoire, un agenda dans la main. Aujourd'hui, quand vous avez votre téléphone portable, dans le téléphone portable, il y a une montre, il y a l'appareil photo, il y a la caméra, il y a l'agenda. Vous avez pratiquement beaucoup de choses dans un appareil. Eh bien, Dieu, c'est un peu comme cela. Dieu dit aux Égyptiens, aux Israélites qui sortent d'Égypte, vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec un tas de dieux après vous. Un seul Dieu est capable de faire tout ce dont vous avez besoin. C'est un Dieu tout-puissant, un Dieu magnifique. Et tellement ce Dieu est tout-puissant, tellement ce Dieu est magnifique, tellement ce Dieu est insaisissable, Dieu leur dit comme deuxième commandement, verset 4, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à trois générations et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous avez noté la différence entre la bénédiction et la malédiction? Jusqu'à trois générations pour la malédiction, mais jusqu'à mille générations pour la bénédiction. Dieu dit, vous ne devez pas faire d'image, vous ne devez pas faire de représentation des choses divines. Vous ne devez pas avoir de statuette, d'image, de statue pour adorer, pour conduire votre culte. Vous ne pouvez pas faire cela. Pourquoi Dieu demande cela? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a aucune image, aucune statue qui puisse renfermer la gloire et la puissance de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'on peut tailler quelque chose, même en or, qui puisse réellement dire le caractère de Dieu, la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu? Dieu est si grand qu'il ne peut pas être enfermé dans une image ou dans une statue. On ne peut pas faire une statue et dire « voilà une statue qui nous rappelle Jésus ». C'est trop petit pour Jésus. Jésus est trop grand pour ça. Et la deuxième raison, pourquoi Dieu ne veut pas que nous fassions d'image taillée? Parce que Dieu a un autre plan. Dieu ne veut pas que l'homme fasse des images taillées. Dieu veut que l'homme soit une image du Seigneur. Nous répétons cela. Dieu ne veut pas que l'homme fasse des images taillées, mais Dieu veut que l'homme soit une image du Seigneur. Le plan de Dieu, c'est que ses enfants n'aient pas de statue chez eux, de babiole, de statuette, de tableau. Ce que Dieu veut, c'est que nous, chacun de nous, chaque croyant, chaque chrétien, soit un tableau vivant qui donne l'image de Dieu. Oh, c'est bien plus difficile. Oh, c'est bien plus difficile. Mais c'est bien plus valorisant. C'est bien plus valorisant parce que Dieu nous fait participer à son œuvre. Dieu nous fait participer à la connaissance de sa personne. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de la Genèse, très tôt, au chapitre 1er, Dieu avait déjà dit ce plan. Genèse 1, verset 26, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'homme n'a pas à faire de statue, il doit être à l'image de Dieu. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire, être à l'image de Dieu? La suite du verset dit, « Et qu'il domine, Genèse 1, 26, et que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Être à l'image de Dieu n'est pas une question physique, mais c'est une question de caractère. Nous répétons cela. Être à l'image de Dieu n'est pas une question physique, c'est une question de caractère. Parce que Dieu dit, l'homme sera à mon image. Et comment ça se manifeste? Parce que l'homme, Dieu lui donne la domination sur les animaux. Autrement dit, Dieu dit à l'homme, tu n'es pas un animal, tu n'es pas une bête, tu ne peux pas vivre comme un animal, ni te conduire comme un animal, tu dois savoir que tu es un homme. Tu es le prince de la création et tu dois en quelque part être comme ton sauveur, celui qui gère la création. L'homme devient auprès de Dieu un gestionnaire de la création. L'homme est chargé de montrer aux autres quelle est l'image et le caractère de Dieu. Parce que quand Dieu dit aux hommes, vous allez dominer sur les animaux, Dieu n'a pas dit aux hommes, vous allez massacrer les animaux. Vous savez ça? Dieu a dit aux hommes, vous allez dominer, c'est-à-dire vous allez vous en occuper et vous ferez en sorte que les animaux soient bien. Mais je crois que l'homme vraiment a perdu le caractère de Dieu. Est-ce que vous savez que nous avons eu un grand problème de santé publique il y a quelques années, qu'on appelait la vache folle? Vous vous rappelez de cela? OK. Et comment ça s'est arrivé? Parce que les hommes ont utilisé des carcasses de moutons, des moutons malades. Avec ces carcasses, ils ont fabriqué ce qu'ils appellent des farines. Et ils ont donné aux bœufs, qui sont normalement des herbivores, ils ont donné aux bœufs à manger de la farine de mouton. Eh bien, résultat de l'opération, les bœufs ont eu les maladies des moutons, les hommes qui mangeaient les maladies, qui mangeaient les bœufs, ils ont eu aussi la maladie des bœufs. On appelait ça la vache folle, les vaches qui tremblent, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Eh bien, voici ce que l'homme a fait. Dieu lui a dit, écoute, occupe-toi des animaux. Mais l'homme, ayant été rendu malade par le péché, l'homme a perdu le caractère de Dieu. Et ce que Dieu lui avait demandé, occupe-toi, prends soin des animaux. Regardez la suite. La Bible dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Les deux, ensemble, forment l'image de Dieu. Mes chers amis, lorsque Dieu crée l'homme, il le crée pour que l'homme soit son image, pas pour que l'homme produise des images de Dieu. Et regardez ce qu'il y a là maintenant, dans Genèse toujours. Genèse chapitre 1, verset 31. Lorsque Dieu a fini de créer l'homme, le sixième jour, à la fin du sixième jour, la Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici cela était comment? Très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse 1, 31. Dites-moi, est-ce que Dieu avait réussi l'opération? Est-ce qu'il avait bien créé l'homme à son image? Est-ce qu'il avait réussi l'opération? Oui, parce que la Bible dit qu'au sixième jour, après la création, la Bible dit que Dieu regarde et il voit que tout ce qu'il a fait était très bon. Mais je voudrais ajouter une chose avec vous. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image, mais Dieu va lui donner quelque chose. Dieu va lui donner une bénédiction pour qu'il puisse amplifier l'image de Dieu en lui. Regardez quelle est cette bénédiction. Lisez avec moi. Genèse chapitre 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. La Bible dit que le sixième jour, Dieu a fini toute la création matérielle. Le sixième jour au soir, donc le vendredi soir, au coucher du soleil, Dieu a fini toute la création matérielle. Les animaux sont là, la nature est là, les hommes sont là, la création matérielle est terminée. Quand cette création matérielle est terminée, Dieu dit que tout cela est, comment ? Très bon. Mais Dieu veut développer son image en l'homme. Alors regardez ce que Dieu va lui donner. Dieu va lui donner quelque chose. Genèse chapitre 2, verset 2. Lisez avec moi. Dieu acheva au septième jour son œuvre. Oh oh. Est-ce qu'on n'a pas lu dans Genèse 2, verset 1 que Dieu acheva son œuvre? Mais là, on lit à nouveau, Dieu acheva son œuvre au septième jour. Autrement dit, le vendredi soir, la création matérielle est finie. Le sixième jour au soir, la création matérielle est finie. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas finie. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement la création matérielle. L'œuvre de Dieu s'achève le septième jour. Le septième jour, Dieu dit à l'homme, écoute, tu es créé bien, tu es beau, tout cela est très bon, mais tu as besoin de développer mon image en toi. Alors Dieu va donner à l'homme le sabbat, le septième jour, un temps d'adoration, où Dieu va dire à l'homme, chaque fois que tu viendras le sabbat, chaque fois que tu viendras causer avec moi, tu vas me connaître mieux et mon image va s'imposer. Planté en toi de plus en plus. Relisons cela. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc vous comprenez que l'adoration, le temps qu'on passe avec Dieu va développer notre image, l'image de Dieu en nous, pardon. Dieu crée l'homme, c'est très bon, mais il achève son œuvre le septième jour, parce que le septième jour, l'homme vient rencontrer son Dieu, il passe du temps avec son Dieu, et le temps qu'il passe avec Dieu, il découvre Dieu, il connaît mieux le Seigneur, et il devient de plus en plus comme le Seigneur. Vous n'avez qu'à faire une expérience. Lorsque vous regardez des personnes qui s'exposent au soleil. Eh bien, plus elles sont claires, ces personnes de peau, plus le soleil va transformer leur couleur. Ils vont bronzer en quelque part. Quand on s'expose au soleil, eh bien, le soleil va changer mon image, mon aspect. Mais la Bible dit que Jésus est le soleil de justice. Quand je rencontre Jésus, je m'expose à ce soleil transforme mon image. Je deviens de plus en plus à l'image de Dieu. Et c'est ainsi que tant que l'homme était créé bien, tant que l'homme venait rencontrer Dieu, l'image de Dieu se développait dans l'homme. Et vous comprenez bien que dans ce contexte-là, on n'a pas besoin de statuette. Parce que quand je regarde mon frère, je vois le Seigneur. Parce que comme le Seigneur, il est bon, comme le Seigneur, il est gentil, comme le Seigneur, il est respectueux. Et quand je regarde ces choses, je n'ai pas besoin d'image. Le prochain renvoie l'image de Dieu. Mais il va se passer un événement qui va bousculer cette belle mécanique. Regardez, prenez vos Bibles. Genèse chapitre 3. Regardez quel événement va bousculer cette belle mécanique. L'homme rencontre Dieu, il prie, il écoute Dieu, l'image de Dieu se développe en lui, le monde est bien, il n'y a pas de problème. Mais il va se passer un événement fâcheux. Genèse chapitre 3, verset 4. Quel est cet événement fâcheux? La Bible dit, Genèse, premier livre, chapitre 3, verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu avait dit aux hommes, il y a un fruit dans le jardin, vous n'y touchez pas. sinon vous mourrez. Le diable vient et il dit le contraire. Il dit non, si vous y touchez, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous serez comme des dieux. Le diable leur dit, je vous propose mieux que ce que Dieu vous a proposé. Dieu vous a proposé d'être à son image. Mais moi, je vous propose de ne pas être à l'image de Dieu, mais d'être vous-même Dieu. On va monter plus haut que le Seigneur. Et regardez ce qui se passe dans la suite. La Bible dit, au verset 6, Genèse 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Lorsque le péché intervient, la première conséquence du péché, c'est que l'homme ne supporte plus la présence de Dieu. Et comme l'homme ne supporte plus la présence de Dieu, l'homme n'étant plus à l'aise en présence de Dieu, l'homme passant de moins en moins de temps avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être à l'image de Dieu, l'homme sera de plus en plus à l'image du diable. Et mes amis, on a cherché beaucoup de solutions aux problèmes de la société. Souvent on dit, qu'est-ce qu'on va faire pour guérir la société de ces maux? Pourquoi les gens sont si violents, si menteurs, si lâches? On cherche toutes sortes de solutions. Mais le problème est simple. Hein? Depuis le jour où l'homme ne supporte plus la présence de Dieu, depuis ce jour-là, l'homme est de plus en plus à l'image du diable. L'homme est de plus en plus violent. L'homme est de plus en plus méchant, malhonnête. Vous n'avez qu'à lire la Genèse. Vers chapitre 1, chapitre 2, tout va bien. Chapitre 3, le péché. Le péché, l'homme ne supporte plus la présence de Dieu. À partir du chapitre 3, la déchéance de l'humanité commence. À partir du chapitre 3, Caïn tue son frère Abel. À partir du chapitre 3, vous avez les gens qui deviennent de plus en plus méchants, violents, et le monde tombe dans un chaos. Mes chers amis, il y a une chose que nous devons faire. Il y a une chose que chaque être humain doit faire. Il y a une chose que chaque chrétien doit faire. Passer beaucoup de temps avec Dieu. Parce que c'est en passant du temps avec Dieu, en contemplant Dieu, en écoutant sa parole, en priant, en recevant ses grâces, c'est comme cela seulement que notre caractère sera changé et que nous allons de plus en plus refléter l'image de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la Bible qui le dit. Regardez comment la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, avez-vous trouvé? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Regardez comment c'est essentiel ce que nous lisons là. 2 Corinthiens 3 verset 18. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Ceux qui contemplent Dieu. Nous sommes quoi? Transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Soulignez ce verset dans vos Bibles. Retenez ce verset. La Bible dit que celui qui contemple le Seigneur, comme dans un miroir, le miroir étant la Bible, le miroir étant un instrument qui nous révèle l'image de Dieu. Le miroir qui révèle l'image de Dieu, c'est la Bible. La parole dit, celui qui contemple l'image de Dieu, qui contemple Dieu dans son miroir, c'est-à-dire dans la Bible, celui-là, il est transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu, à la même image que Dieu. Et par qui est-il transformé? Par le Saint-Esprit. Mes chers amis, voici le problème de l'humanité. Et voici aussi le problème du christianisme. Voici le problème des églises. C'est que nous nous disons humains, nous nous disons enfants de Dieu, nous nous disons même chrétiens, mais la Bible nous donne des crises d'urticaire. La Bible nous agace. La Bible nous fatigue. La Bible est toujours trop compliquée. On ne veut pas prendre du temps pour étudier et méditer la parole de Dieu. Et je vous assure, mes chers amis, le jour où dans l'Église du Seigneur, chaque membre de l'Église va se discipliner pour contempler le Seigneur dans sa parole chaque jour et aussi le jour du sabbat pleinement, eh bien, je vous garantis que le visage de l'Église va changer. Le visage de l'Église va changer parce que le visage de chacun va changer. Parce que, mes amis, combien de temps passes-tu avec le Seigneur quotidiennement? Combien de temps est-ce que tu donnes à la méditation de la parole, à la compréhension de la parole? C'est essentiel. Si tu veux être à l'image de Dieu, tu dois rencontrer Dieu, tu dois t'asseoir avec Dieu, tu dois prier Dieu, tu dois lui demander son Saint-Esprit et tu seras étonné de ton changement de caractère. Toute personne qui écoute ce message et qui a besoin d'un changement dans sa vie, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas chercher ailleurs. Le changement, la guérison, la transformation se trouvent dans une rencontre avec Jésus. Une rencontre quotidienne, une rencontre chaque semaine, une rencontre magnifique, une rencontre belle avec le Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque vous avez une église, n'importe laquelle, et que vous annoncez dimanche à midi, il y aura un concert. Vendredi à 2h du matin, il y aura un concert, l'église est pleine. Faites l'expérience dans n'importe quelle église. Dès que vous annoncez concert, louange, l'église est pleine. Quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, peu importe combien de temps ça dure. Mais quand on dit, prenons la Bible et nous allons faire une étude pendant 45 minutes, on ne trouve plus les gens. Pourquoi c'est comme ça, mes amis? Dites-moi, voici le point faible aujourd'hui. Voici le point faible. Nous supportons des matchs de football d'1h30. Nous supportons des films de presque 2h. Une étude de la Bible qui dure 30 minutes, c'est trop, c'est compliqué. Mais ce n'est pas compliqué, c'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre. Demande au Saint-Esprit d'être avec toi. Montre de la bonne volonté. Viens, reviens, cherche et tu trouveras, tu comprendras. Mais on dirait que nous n'avons pas toujours envie de faire l'effort, cet effort auprès de la Bible. Et c'est la solution pour que nos vies soient changées. C'est la solution pour que nous puissions comprendre le Seigneur et que nous puissions refléter son image. C'est catastrophique que vous preniez beaucoup de membres de toutes les églises, y compris la mienne, et qui ne sont même pas en mesure de vous expliquer leurs croyances, de vous dire pourquoi ils font ou pourquoi ils ne font pas une chose, Résultat, dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui les éprend un peu, eh bien, ils lâchent, ils changent, parce qu'on n'a pas de racines. C'est pour ça que nous sommes faibles spirituellement. C'est pour ça que l'Église est faible. C'est parce que nous n'étudions pas assez la Bible. Nous ne voulons pas la retenir, la comprendre, nous disposer pour ça. Et c'est ça le secret d'une vie à succès, c'est l'étude de la parole de Dieu. Mes chers amis, regardez avec moi cette histoire qui se trouve dans Jean chapitre 9. Je dis bien Jean 9. Et vous verrez que parfois, on peut chercher des solutions à ces problèmes dans toutes sortes de choses. Toutes sortes de croyances, toutes sortes de superstitions, toutes sortes de livres. Mais mes amis, la solution à nos problèmes se trouve en Jésus et en Jésus seul. Si tu as besoin d'une vie transformée, tu as besoin de sagesse, viens à Jésus. Étudie la parole de Dieu, achète-toi une Bible, procure-toi une Bible, demande une Bible et demande au Saint-Esprit de te conduire. Regardez avec moi Jean chapitre 9. Regardez comment la Bible enseigne que nous ne devons pas chercher dans quoi que ce soit la solution à nos problèmes. Regardez, Évangile de Jean, chapitre 9. La Bible dit dans Jean 9, ou plutôt Jean 5, Jean chapitre 5, revenons. Jean chapitre 5, tournez quelques pages, c'est Jean 5. Jean chapitre 5, que lisez-vous avec moi? Verset 1er. Jean 5, verset 1er. La Bible dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. » Vous savez ce que signifie Bethesda? Bethesda signifie « maison de miséricorde ». Maison de miséricorde. On appelle cette piscine maison de miséricorde. Pourquoi? Regardez. Cette piscine était sous des portiques. Verset 3, Jean 5, 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Vous avez compris le système, mes chers amis? Je résume. Il y a une piscine. Auprès de la piscine, piscine qu'on appelle maison de miséricorde. Auprès de la piscine, il y a plein de malades, toutes sortes de malades, des gens qui ont toutes sortes de problèmes. Ils sont auprès de la piscine. Ils attendent quoi? Ils attendent qu'un ange descende et que l'ange puisse bouger l'eau. Quand l'eau bouge, le premier qui tombe dans l'eau, il est guéri. On appelle cette piscine comment? Maison de miséricorde, Bethesda. Alors, vous comprenez bien que là, il s'agit d'une tradition qui était là. Parce que où est la miséricorde dans ça? Parce que finalement, qui sera guéri? Toujours le moins malade. Vous êtes d'accord? Parce qu'il s'agit de faire une course pour tomber dans l'eau le premier. Donc finalement, celui qui va être guéri, ce sera toujours le moins malade. Ou alors, celui qui sera guéri, ce sera toujours le plus riche. Parce qu'il va payer 4 personnes qui vont rester là en permanence et qui vont attendre, dès que l'eau bouge, qui vont le jeter dans l'eau. Donc finalement, où est la miséricorde dans ça? Vous comprenez bien que là, c'était une croyance que les gens avaient, c'était quelque chose qui se passait et beaucoup de personnes pensaient trouver une solution à leur problème là. Mais en fait, vous allez voir, qu'il y en a vraiment très peu qui trouvaient de solution, pour ne pas dire aucun. Parce que la Bible dit au verset 5, revenez avec moi à la lecture. Jean 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Il est malade depuis 38 ans, mais on ne sait pas depuis combien de temps il est près de la piscine. Peut-être qu'il est près de la piscine depuis 20 ans, on ne sait pas. Peut-être depuis 10 ans. On ne nous dit pas qu'il est là depuis 38 ans, mais on nous dit qu'il est malade depuis 38 ans. Cet homme, d'après vous, est-ce qu'il a besoin d'être guéri? Est-ce qu'il mérite d'être guéri? Il mérite, hein, parce que tellement il est malade, il est couché. Et tellement il est malade, il est là depuis 38 ans. Ça fait un moment qu'il est malade, ça fait un moment que ça ne va pas. Et regardez ce qui se passe. Cet homme est là, il cherche une solution, il cherche une transformation, il veut une guérison, mais il compte sur une superstition, il compte sur un phénomène. Et voici ce qui va se passer. La Bible dit au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? En fait, je me demande, est-ce que ce jour-là, Jésus était fatigué pour poser une telle question? L'homme est malade depuis 38 ans. En plus, il vient se coucher près de la piscine au lieu de rester chez lui. La question que Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Vous auriez été à la place de cet homme. Qu'est-ce que vous auriez dit à Jésus? Peut-être que vous l'auriez dit gentiment, ou comme des malades, s'il est bouillon alors. Peut-être que aigri par la maladie, vous auriez été agressif avec lui. Parce qu'il faut reconnaître que la question est curieuse. Veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus lui pose cette question? Parce que Jésus n'intervient jamais dans la vie de quelqu'un sans que la personne ne demande l'intervention de Jésus. Jésus ne mettra jamais son nez dans vos affaires si vous ne lui donnez pas l'autorisation d'entrer dans votre vie. Jésus veut, pour intervenir, que l'homme exprime sa demande, que l'homme dise « j'ai besoin de toi » et que l'homme lui dise « je t'autorise à participer dans mes affaires ». Dieu respecte la liberté des hommes. Et alors l'homme répond très sagement. Il dit au verset 7, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Il dit à Jésus tout simplement, « Tu sais, je veux être guéri, mais pour que je sois guéri, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un parce que je suis tellement mal en point, le temps que j'arrive dans la piscine, quelqu'un d'autre est déjà descendu avant moi. Alors soit je descends quand même pour voir, mais il ne se passe rien. Ou soit je ne descends même pas parce que je me dis, il y en a tellement qui sont déjà descendus, ce n'est pas la peine puisque la guérison c'est pour le premier venu. » Et vous appelez ça comment? Maison de miséricorde. Alors mes amis, cet homme dit, ce n'est pas que je ne veux pas être guéri, c'est que je ne peux pas me guérir seul. J'ai besoin d'un sauveur pour me guérir. C'est comme si nous disions au sauveur, oui, je veux être sauvé, mais je ne peux pas me sauver seul. J'ai besoin d'un sauveur. C'est comme si nous disions, oui, j'ai un mauvais trait de caractère, mais je ne peux pas me changer seul. J'ai besoin d'un sauveur pour me changer. Parce que j'ai envie d'être à l'image de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme couché malade. Dieu n'a pas créé l'homme grabataire, Dieu a créé l'homme vigoureux. J'ai envie d'être à l'image de Dieu, mais je ne peux pas. Regarde ce que le péché a fait de moi. J'ai envie d'être guéri, mais j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus reçoit sa prière. Tellement Jésus reçoit sa prière qu'au verset 8, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ça, c'est la miséricorde. Parce que la miséricorde ne s'étend pas aux plus vigoureux. La miséricorde ne s'étend pas aux plus riches. La miséricorde s'étend aux plus nécessiteux. La miséricorde s'étend à celui qui en fait la demande. La miséricorde s'étend à celui qui a la foi. C'est ça la miséricorde. Et quand Jésus dit ça, c'est une parole ou c'est une puissance? C'est une puissance. Parce que nous lisons au verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et c'était quel jour que ça s'est passé? le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Alors, vous n'imaginez pas que cet homme était couché près de la piscine sur un lit en mahogany massif. Il ne faut pas imaginer que lorsque Jésus l'a guéri, il avait un tournevis dans sa poche, il a pris son tournevis, il a démonté un lit en mahogany massif avec un matelas épais comme ça à ressort et qu'il a pris tout ça et qu'il a mis sur sa tête et qu'il marchait avec. Ce n'est pas ça. L'homme était, c'était un homme pauvre qui n'avait rien. L'homme était démuni. Tout ce qu'il a pris, c'est certainement une natte qu'il avait, une natte peut-être rembourrée, quelque chose qu'il a enroulé et qu'il a mis sous son bras. Et il part avec ça, guéri. Et voici, les Juifs le rencontrent. Mais ceux-là, ils ne sont pas à l'image de Dieu. Au lieu d'être contents parce que l'homme est guéri, tout ce qui les intéresse, c'est chicaner sur le sabbat. Chicaner sur le fait qu'il ne t'est pas permis de porter ton lit le sabbat. Oh, mes amis, il y a tellement de personnes comme cela qui ont une fausse idée du sabbat, qui pensent que le sabbat, c'est une série d'interdictions. C'est un jour pour interdire. Et tout ce qu'il faut croire, c'est que ceux qui observent le sabbat, eh bien, ceux qui observent le sabbat, eh bien, ce sont des gens qui sont simplement sous des interdits. C'est interdit de faire ceci, interdit de faire cela, interdit de faire ceci. Et il y a des gens qui disent, moi, pas moi avec le sabbat, il y a trop d'interdits. Si vous dites ça, vous n'êtes pas à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de ces Juifs-là. Parce que ce n'est pas Jésus qui dit ça, c'est eux qui le disent. Il y a trop de gens qui ont une méconnaissance du sabbat. Le sabbat n'est pas un jour d'interdit, c'est un jour de transformation. Nous répétons cela? Le sabbat n'est pas un jour d'interdit, c'est un jour de transformation, un jour de miséricorde, un jour de guérison. Quelle guérison? Eh bien, Jésus nous guérit de la maladie, de la possession. Jésus nous guérit de l'activisme. Jésus nous guérit de l'esclavage du travail. Jésus nous libère le sabbat. Et Jésus dit, le sabbat, eh bien, c'est le jour par excellence où vous allez me rencontrer. Vous allez passer du temps avec moi et je vais vous guérir. Je vais vous transformer. Je vais vous soulager. Je vais vous faire du bien. Demandez à ceux qui ont bien compris le sabbat et qui le vivent. Combien ils sont contents quand le vendredi soir arrive? Combien ils sont contents de déposer les armes et de rentrer dans le repos de Dieu, de se reposer, de compter sur le Seigneur, de venir à l'église, de chanter, d'entendre la parole, de rentrer chez eux, de manger en famille. Et l'après-midi, de se détendre, de se reposer, de visiter des malades ou peut-être de revenir à l'église, partager encore quelque chose autour de la parole de Dieu. Le sabbat est un jour de guérison. C'est le jour où Dieu fait entrer son image en l'homme. Mais pas seulement le sabbat, tous les jours de la semaine. Chaque fois que je rencontre Dieu, il fait entrer son image en moi. Mais le sabbat, il y a encore plus de temps. Et regardez la suite. Au verset 11, l'homme à qui on dit, mais pourquoi tu portes ton lit le sabbat? Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et alors, c'est comme s'il leur disait, ça zot jamais fait bas moi pour venir bas moi commandement. Qui ça zot ni 38 ans m'a couché malade là, qui ça zot jamais fait bas moi? Zot qui a venu bas moi l'autre, mais qui ça zot jamais fait bas moi depuis que je m'a couché là, pas un frère bas moi. Mais celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Et je me dis que s'il a le pouvoir de me guérir, il a le pouvoir de me donner des commandements. S'il a le pouvoir de me guérir, lui, il peut me dire ce que je dois faire. Oh, mes amis, rappelez-vous, lorsque Dieu est venu sur le mont Sinaï donner les 10 paroles à Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Autrement dit, avant de donner le commandement, Dieu dit, gardez ça, mon affaire, et comprenez comment pas contre tout. Comprendre comment pas là pour brimer. comprendre comment là pour bien ou parce que garder ça mon zafé ba ou. Et Jésus, il a fait la même chose à l'homme. Il lui a fait comprendre vraiment que signifie le sabbat. Il lui a dit d'abord, je te guéris, je te délivre, je te fais du bien. Et il lui dit après, tu sais que le sabbat, tu peux prendre ton lit et rentrer chez toi. Mais oui, mes amis, le sabbat, on peut soigner un malade. Le sabbat, on peut donner à manger à un malheureux. Le sabbat, on peut venir en aide à quelqu'un qui en a besoin. S'il y a une situation vraiment d'urgence, il y a une situation d'urgence, de catastrophe, le sabbat, on peut prendre son marteau et ses clous et on peut réparer la maison de quelqu'un. Le sabbat, on peut faire du bien, mes amis. Le sabbat n'est pas un esclavage, c'est une libération. Il faut, si vous voulez vraiment comprendre la signification du sabbat, il faut venir à Jésus. C'est lorsqu'on rencontre Jésus qu'on comprend la signification du sabbat. Cet homme, Jésus lui a permis de connaître vraiment la signification du sabbat parce qu'il a rencontré Jésus. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui, ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin que l'image de Dieu soit de plus en plus visible dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a besoin, comme Dieu, d'être libre parce que Dieu est libre. Quelqu'un a besoin, à l'image de Dieu, d'être libre, peut-être d'être libéré du tabac, peut-être d'être libéré de l'alcool, peut-être d'être libéré de la drogue. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'image de Dieu. Il y a quelqu'un qui, comme Dieu, a besoin de respect, parce que Dieu, c'est un Dieu de respect. Quelqu'un qui a besoin d'apprendre à respecter les autres et qui a besoin d'apprendre à se faire respecter. Si tu as besoin de cela, ça, c'est l'image de Dieu. Il faut que tu accueilles Dieu, que tu rencontres Dieu, que tu te donnes à Dieu, que tu appartiennes à Dieu. Ce n'est pas des traditions qui vont te changer. Ce ne sont pas des superstitions qui vont te guérir. C'est Jésus qui va te guérir. Mais si tu acceptes que Jésus te guérisse, si tu veux que Jésus te guérisse, il faut aussi que tu acceptes que Jésus te dise ce que tu dois faire. Et vous savez, qu'est-ce qui empêche souvent à Jésus de faire des miracles pour nous? Qu'est-ce qui empêche à Jésus souvent de nous guérir? Parce que nous aurions voulu que Jésus nous guérisse, que Jésus nous sauve, que Jésus nous fasse du bien, mais qu'après, qu'il nous laisse faire ce que nous voulons. Je fume, j'ai un cancer. Jésus, guéris-moi de mon cancer, mais tu n'as pas le droit de me dire de ne plus fumer. C'est ça le problème, mes amis. Et c'est pour ça que nous ne portons pas l'image de Dieu. Et c'est pour ça aussi que souvent, nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas bénis, nous ne sommes pas délivrés, parce que nous voulons toutes les bénédictions de Dieu, mais nous ne voulons pas que Dieu nous dise « Prends ton lit et marche ». Et ce soir, le Seigneur dit à ses enfants qui sont là, « Si au fond de ton cœur, tu acceptes que je te dise « Prends ton lit et marche », si tu acceptes que je te donne la véritable compréhension du sabbat, si tu acceptes que je te montre quelle bénédiction il y a dans le sabbat, mais pas dans le sabbat seulement, dans tous les commandements de Dieu, eh bien tu verras comment tu seras guéri. Tu verras comment tu seras délivré. Tu verras comment tu seras transformé. Tu verras comment mon image sera en toi. Et vous savez, mes amis, l'image de Dieu, ce n'est pas une image triste. Il y a des gens qui pensent que des chrétiens, ce sont des gens tristes. Les chrétiens, ce sont des gens tristes, mais ce n'est pas vrai. S'il y a quelqu'un de joyeux, d'heureux, d'épanoui, c'est bien un chrétien. Il n'a pas de culpabilité, son avenir est assuré parce qu'il sait que Jésus revient, ses péchés sont pardonnés, il ne se soucie pas du lendemain parce qu'il dit le lendemain aura soin de lui-même. Il n'a pas peur des plaies d'Égypte. Il ne vit pas dans la crainte du quimbois, il fait moins mal. Non, le chrétien est délivré de tout ça. Il est épanoui, il est heureux. Et même quand il est malade, même quand il a ses soucis, il se dit, mon sauveur est passé par là avant moi. Il me comprend et il peut me venir en aide. Oh mes chers amis, je vous en supplie dans le nom de Jésus, acceptez-le comme votre sauveur. Donnez à Jésus votre vie. Rencontrez Jésus prenez du temps pour lui. Acceptez d'être baptisé comme Jésus a été baptisé. Faites alliance avec Jésus. Recevez l'image de Dieu en vous. Soyez transformés pour votre bonheur. Et tandis que vous méditez cette invitation que Dieu vous fait, nous allons chanter un chant où il y a des paroles extraordinaires, où Jésus dit ce soir, tu peux naître de nouveau, tu peux balayer ta vie passée, tu peux tout recommencer, tu peux vivre une transformation. Peut-être qu'il y a 38 ans que tu es paralysé, peut-être qu'il y a 38 ans que le péché te paralyse, peut-être qu'il y a des années que tu es esclave de la drogue ou de la cigarette. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tu es peut-être esclave d'une maladie depuis quelque temps, mais tu peux tout balayer, tu peux tout recommencer. Je vous invite à chanter ce cantique. Je vous invite à donner votre cœur à Jésus. Et j'invite nos amis qui sont à l'accueil, pendant le chant, à passer dans les rangs parmi vous. Ils vont vous proposer une fiche blanche sur laquelle vous pouvez dire votre engagement pour Jésus. Vous pouvez dire sur cette fiche, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Vous pouvez dire, comme Jésus, j'aurais souhaité être baptisé. Je voudrais me préparer pour qu'un jour je sois baptisé. Vous pouvez dire sur cette fiche, je veux rencontrer un des membres de l'équipe pastorale parce que je veux une étude biblique. Je veux qu'on prie pour moi. Alors, tandis qu'ils vont passer, prenez cette fiche, chers amis, remplissez-la et remettez-la avant de partir. Prenez Jésus, acceptez Jésus. Ce n'est que dans une rencontre avec Jésus que la guérison se trouve. Ce n'est que quand on passe du temps avec Jésus qu'on est guéri, mes amis. La guérison ne se trouve pas dans une piscine. Elle ne se trouve pas dans autre chose. Elle se trouve en Jésus seul. Prends Jésus pour ton sauveur et tu peux repartir à zéro. Levons-nous pour chanter avec cœur et avec joie.
Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de
être pardonné de tous tes péchés.
Tu peux être pardonné de tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, sous ce temps.
Et prions notre Dieu.
Père éternel, merci pour ce message que tu nous donnes. Tu veux que nous soyons à ton image. Merci pour ce message d'espoir. Et tu nous dis ce soir, quel que soit notre passé, tu es prêt à nous changer. Tu es prêt à nous donner une nouvelle vie. Tu es prêt à nous donner un nouveau départ. Nous croyons ce message et nous voulons que toi, tu puisses vivre en nous. Donne-nous la force, la foi de croire en ce message et de donner notre cœur. Tu connais notre vie passée, tu connais aussi notre avenir. Tu voulais que nous puissions faire alliance avec toi ce soir. Tu parles ce soir à un cœur qui est en train d'hésiter. Donne-lui la force, que son Saint-Esprit descende en lui, afin qu'il puisse prendre la décision pour son avenir. Bénis le message, bénis le messager, et aide-nous à prendre la bonne décision, afin que toi tu puisses vivre en nous, et que nous puissions faire une nouvelle expérience avec toi. Nous te prions non que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus qui a donné sa vie pour nous, et pour ta gloire éternelle. Amen.